On débute avec le journal d'Adrien Taufolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il est officiellement celui qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Joe Biden a prononcé hier soir son discours d'investiture. Moment majeur de sa carrière et de la campagne, il promet de rassembler les Américains et de faire oublier la période sombre du mandat Trump. Récit depuis Washington de Grégory Phillips.
Emmanuel Macron et Angela Merkel se disent très préoccupés par l'état de santé d'Alexei Navalny. À cette heure, l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, est toujours dans le coma dans un hôpital de Sibérie. Ses proches assure qu'il aurait été empoisonné. Une ONG allemande a fait décoller un avion cette nuit pour tenter de le faire rapatrier. Précision de Claude Bruyot.
Et puis l'épidémie de coronavirus progresse encore. C'est ce que montrent les dernières données de Santé publique France. La circulation du virus s'accélère, surtout dans 6 départements, dont la Sarthe qui renforce le port du masque à partir d'aujourd'hui. Précision de Paul Sertillange. C'était le discours le plus important de la carrière de Joe Biden, celui de son investiture comme candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Après 4 jours d'une convention totalement bousculée par l'épidémie de coronavirus, Joe Biden, 77 ans, a donc accepté hier officiellement d'être celui qui affrontera Donald Trump le 3 novembre prochain. Discours d'une 20aine de minutes prononcé depuis sa ville de Wilmington dans l'état du Delaware, dans lequel il a promis de mettre un terme à la période sombre que traverse actuellement l'Amérique. Précision signée Grégory Phillips.
Ce discours, il s'y prépare depuis quasiment 50 ans de carrière politique. Après 2 échecs en 1988 et 2008 et un renoncement en 2016, Joe Biden devient donc officiellement le candidat à la présidentielle du Parti démocrate. Un mot revient sans cesse dans cette allocution de presque 25 minutes, la lumière. Plutôt que l'obscurité. Ensemble, nous pouvons et nous allons surmonter cette période sombre en Amérique. Nous choisirons l'espoir plutôt que la peur, les faits plutôt que les mensonges, la justice plutôt que les privilèges. Biden est émouvant quand il évoque les drames familiaux qu'il a traversés, la mort de sa première épouse et celle de son fils Beau il y a 5 ans. Offensif quand il attaque Trump sur son bilan et sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Il a échoué à nous protéger, à protéger l'Amérique, et c'est impardonnable. Puis Joe Biden et son épouse Jill vont sur le parking du centre des congrès saluer quelques militants réunis en mode drive-in, chacun dans leur voiture, à cause de l'épidémie. Feux d'artifice, klaxon, drôle de convention chamboulée par le coronavirus.
Grégory Phillips. Quelques heures plus tôt, Donald Trump était en Pennsylvanie, un état clé pour l'élection présidentielle. Et rien n'était laissé au hasard. Le président a prononcé un discours depuis Old Forge, une petite ville toute proche de là où est né Joe Biden. Il prédit des ruines fumantes, l'anarchie violente et des petits trottoirs tachés de sang si son opposant démocrate est élu. Donald Trump qui, de nouveau, a affirmé sans retenue que Biden ne pourra gagner que si l'élection est truquée. On ignore toujours ce matin ce qui est arrivé à Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, est hospitalisé depuis hier dans un état grave à Omsk en Sibérie. Victime, selon les dires de son entourage, d'un empoisonnement, pour l'instant rien n'a été prouvé. Hier soir, l'Allemagne et la France ont proposé leur aide. Emmanuel Macron recevait Angela Merkel au fort de Brégançon. Ils se sont dit extrêmement préoccupés et attristés par la situation et prêts à porter assistance à Alexei Navalny et ses proches sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile et de la protection. En attendant du concret, une ONG allemande a fait partir cette nuit un avion médicalisé pour tenter de le faire rapatrier. Officiellement, Claude Bruyot, le Kremlin se dit prêt à faciliter son transfert vers un pays étranger.
La direction de l'hôpital où se trouve Alexei Navalny a refusé dès hier son transfert au motif que tout transport pourrait aggraver son état. La fondation anticorruption de l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, est persuadée, elle, que ce refus est dicté par d'autres raisons. Il est question surtout pour le collectif d'Alexei Navalny de faire en sorte, du côté des autorités, de dissimuler, selon elle, toute trace d'empoisonnement. D'ailleurs, pour les médecins de l'établissement en question, l'empoisonnement ne serait que l'une des causes possibles de l'état de santé d'Alexei Navalny. Depuis 2017, c'est la troisième et sans doute la plus grave atteinte à l'intégrité physique de l'opposant numéro un en Russie. Alexei Navalny se préparait à la bataille des élections régionales partielles de septembre avec l'espoir de réduire un tant soit peu, comme en 2019, l'influence locale du parti présidentiel Russie Unie. Il préparait également de nouvelles révélations sur la corruption à tous les échelons du pouvoir russe. Hier, dans sa chambre d'hôpital, des policiers qui ont tenté de récupérer ses effets personnels se sont heurtés au refus de son épouse, Yulia Navalnaya.
Et ce matin, le médecin-chef de l'hôpital d'Omsk le confirme, l'état de l'opposition en russe, c'est instable, il n'est pas transportable pour l'instant. Au Mali, la junte promet la mise en place d'un président de transition, un civil ou un homme issu de l'armée, précisent les militaires, pour prendre la place du président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Des discussions seraient en cours avec l'opposition, la majorité et la société civile pour une transition la plus courte possible. L'opposition appelle les Maliens à célébrer la chute d'Ibeka tout à l'heure, grand rassemblement patriotique devant le monument de l'indépendance à Bamako.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Adrien Toffolet. En France, l'épidémie de coronavirus progresse un peu plus selon les chiffres publiés hier par Santé publique France.
Plus de 4700 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, une première depuis le mois de mai. Le nombre de patients en réanimation a très légèrement augmenté, mais dans le même temps, les hospitalisations à l'inverse continuent de baisser. C'est ce qu'on remarque surtout dans ces données, aussi que la circulation du virus accélère dans 6 départements. En Ile-de-France, Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Sarthe également. La Sarthe qui a d'ailleurs décidé d'imposer le port du masque dans toute l'agglomération du Mans, mais aussi dans toute la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Il faut dire que dans cette dernière ville, 81 cas ont été détectés depuis le début du mois. Et puis, Sablé possède 2 abattoirs sur son territoire. Les autorités sont donc particulièrement vigilantes, Paul Sertillange.
À Sablé-sur-Sarthe, il y a l'abattoir Charal, mais surtout l'abattoir et le siège de LDC, leader européen de la volaille, 2500 salariés, dont certains qui viennent de loin, selon Laurence Diogène, déléguée syndicale Force Ouvrière.
On a beaucoup de gens du Maine-et-Loire, puisque c'est le département qui est juste à côté de Sablé. Il y a aussi la Mayenne, bien sûr, et puis des gens d'Angers, du Mans, de 50 km qui viennent travailler.
Donc finalement, il y a un brassage de population.
Hein. Exactement.
S'ajoutent à cela les intérimaires.
Ils viennent en covoiturage, ils sont des fois 4 dans les voitures, et c'est pas toujours respecté non plus. Le port du masque.
Mais selon elle, dans l'entreprise, les mesures barrières sont en place.
Le port du masque obligatoire, lavage des mains, il y a du gel qui est mis à disposition.
Et le dépistage de la semaine dernière a été rassurant.
Il y a eu 6 ou 7 cas sur 550 salariés, je crois, de dépistés. C'est pas énorme, quoi, en fin de compte.
Merci à vous.
Les industries agroalimentaires à Sablé, elles se sont impliquées très fortement elles-mêmes.
En entreprise comme en ville, les dépistages se succèdent. Olivier Dubois, le premier adjoint au maire, s'est lui-même fait tester mercredi.
C'est important aussi de montrer l'exemple, puis de rassurer. C'est un test qui n'est pas forcément très agréable, mais qui n'est pas douloureux, qui se fait très rapidement. C'est important qu'un maximum de personnes se fassent tester pour qu'on puisse briser la chaîne de contamination.
Chaque lundi, il est possible de se faire dépister gratuitement à Sablé-sur-Sarthe.
Paul Sertillange. Malgré la situation sanitaire, pas de report de la rentrée des classes, assure Jean-Michel Blanquer. Elle aura bien lieu le 1er septembre prochain, excepté peut-être des exceptions localement en fonction du rebond des contaminations. Le ministre de l'Éducation annonce que le port du masque devra être systématique au collège et lycée dans les espaces clos. Pour le reste, les syndicats regrettent que Jean-Michel Blanquer n'ait pas répondu aux inquiétudes des personnels et des parents. Honneur aux maires à la soirée d'ouverture des journées d'été des écoles. Réunis à la cité fertile à Pantin hier en région parisienne. Europe Écologie Les Verts a affiché une belle vitrine de son dernier succès électoral. 24 des 70 maires élus lors des dernières municipales ont participé à des tables rondes. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient aussi nombreux. Reportage signé Anne Fauquemberg.
D'habitude, j'arrive à peu près à me débrouiller avec nos élus maires sans fiche.
L'animateur de la soirée, l'eurodéputé David Cormand, a un peu plus bûché que d'habitude.
Est-ce qu'on commence par Grégory ?
Grégory, pour Grégory Doucet, l'humanitaire inconnu du grand public qui s'est emparé haut la main de la mairie de Lyon en juin dernier.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire de cette victoire ? Bien sûr, on est aux responsabilités maintenant, donc on doit adapter nos villes. On doit les apaiser, on doit les rafraîchir, on doit protéger les populations du dérèglement climatique qui est déjà à l'œuvre. mais on doit aussi agir sur la qualité de vie au quotidien, parce qu'on nous a élus pour que des résultats sur la qualité de vie, pour que le bien-être s'améliore tout de suite.
Tous sont face à cette difficulté d'articuler le temps long et le temps court, tel Michel Rubirola qui enchaîne depuis Marseille par visioconférence, ou le maire de Grenoble, Éric Piolle, sans oublier les petits, comme Vinciane Faber, maire de Louville dans le Nord, 800 habitants qui ne veulent pas être oubliés.
Quand un maire prend un arrêté contre les pesticides, si on est plein de maires à le faire, si on est plusieurs, je pense que ça aura beaucoup plus d'effet. Voilà, je pense qu'il faudra qu'on travaille tous ensemble. Alors je sais qu'il y a aussi les élus de grandes villes qui travaillent ensemble, mais il ne faudra pas aussi oublier les élus des petites communes.
Un appel à rester groupé qui rassure les adhérents comme Éric depuis un an et demi.
Ça peut créer des jalousies, des rancœurs. On peut le voir avec Dupont-Moretti qui nous traite d'ayatollah vert, les attaques qu'ont subi Alice Coffin, Raphaël Rémy Leleu par rapport à l'affaire Girard. Et en fait, il faut qu'on arrive à créer une vraie dynamique.
Une vraie dynamique sans s'écharper, alors qu'hier, l'eurodéputé Yannick Jadot demandait déjà un vote des militants pour la présidentielle avant Noël, contre l'avis du secrétaire national Julien Bayou.
Anne Fauquemberg, le temps d'aujourd'hui, nuageux dans le nord et l'ouest du pays, avec de la pluie qui partira des Landes jusqu'à l'Île-de-France, des averses à prévoir également en Bretagne et sur le Cotentin. Partout ailleurs, le soleil sera bien présent. Les températures, les minimales évolueront entre 18 et 27 degrés, les maximales entre 20 et 35 degrés.